France Culture.
Question du soir, Antoine Dulster.
Vous les avez peut-être aperçus à l'entrée d'une petite ville ou d'un quartier pavillonnaire. Les panneaux voisins vigilants se multiplient et font désormais partie de nos paysages. Impossible de les rater avec leur jaune vif et leur œil grand ouvert façon Big Brother. Ce vigilantisme, ce phénomène de surveillance citoyenne et locale, ne se limite pas à la chasse aux cambrioleurs. Ces dernières années, il s'est déplacé sur le terrain de la chasse aux migrants. Près des frontières, des Alpes à Calais, des patrouilles s'improvisent avec un objectif: communiquer, faire parler, s'afficher sur les réseaux sociaux. Cette communication spectaculaire s'inscrit dans une démarche militante. Ces groupes revendiquent le fait d'épauler, parfois même de se substituer aux forces de l'ordre. Ce qui ne va pas sans poser une série de questions. Quelle légalité ou quelle illégalité pour ces actions? Pourquoi un tel registre d'intervention dite citoyenne dans l'espace public alors que l'État détient en principe le monopole des prérogatives sécuritaires? Et surtout, que dit ce phénomène d'une demande sociale de sécurité? Nous évoquons ces questions très larges avec Mathéis Gardenier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Montpellier Paul Valéry, auteur d'un ouvrage paru aux éditions Liber, Vigilantisme et idéologie de la sécurité, des voisins vigilants au groupe anti-migrants. Merci d'être avec nous dans Question du soir. Alors Mathéis Gardenier, j'ai envie de vous poser une question très simple pour commencer cet entretien. Qu'est-ce que le vigilantisme et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cet objet de recherche?
Alors le vigilantisme, pour faire simple, on va dire, c'est le phénomène qui voit des citoyens, de manière volontaire et non rémunérée, faire œuvre de sécurité, faire œuvre de travail de police ou de justice en lieu et place de l'État. Donc ça, c'est un phénomène qui se manifeste, enfin, qui existe depuis longtemps, qui accompagne en fait l'émergence de l'État moderne, et on va dire duquel on assiste une résurgence assez importante, on va dire depuis les années 80. Et moi, j'ai voulu m'intéresser à ce phénomène qui d'abord était un objet qui était plutôt saisi par l'anthropologie, qu'on concevait comme quelque chose qui caractérisait plutôt les sociétés du sud global, comme quelque chose qu'on retrouve aussi en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays occidentaux. Et moi, quelque chose qui m'avait pas mal interpellé, qui m'a mené donc à m'intéresser à ce sujet, c'est l'émergence de groupes anti-migrants à Calais qui prétendaient sécuriser les alentours de la frontière franco-britannique.
Alors, avant d'en arriver justement aux migrants et à cette réalité très contemporaine, comment s'est créé ce phénomène? Vous parlez de défaillance de l'État dans votre ouvrage. Votre ouvrage mentionne aussi plusieurs contextes extrêmement différents. Il faut peut-être partir d'une espèce de matrice américaine, revenir à l'Ouest américain avec une justice citoyenne à défaut d'État et parfois des méthodes un peu expéditives.
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui se construit aussi aux États-Unis pendant, surtout au 19e siècle. Il y a deux types de vigilantisme. Le premier, on va dire, c'est le vigilantisme de la frontière dans l'Ouest américain, où on va avoir, on va dire, des vigilants, des espèces de sociétés secrètes qui vont vouloir amener des formes de justice face à ce qu'ils conçoivent comme des crimes. Et qui vont, une fois qu'ils s'auto-saisissent d'un crime, ils vont mener des cours secrètes, puis une sanction qui est mise en œuvre par des justiciers masqués. Je ne sais pas si vous avez rappelé dans Lucky Luke, on voit des personnes qui sont ramenées à la sortie de la ville sur les traverses de chemin de fer vêtues de goudron et de plumes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez comique dans Lucky Luke. En réalité, ça l'était moins parce que quelqu'un qui subissait ce châtiment mourait, en fait, parce que ça bouchait les pores de sa peau.
Donc ça a vraiment existé, ce type de châtiement corporel.
Une des sanctions que ces vigilants mettaient en œuvre. Et le phénomène, il est très important dans l'Ouest américain, donc notamment au Texas, où on avait les Regulators, des Regulators qui régulaient tellement, qui étaient tellement violents, qu'il y avait une contre-société vigilante qui s'appelait les Moderators, qui essayaient de les punir pour leur excès. Et aussi à San Francisco, où le phénomène est peut-être l'endroit où il touche son apogée, en ciblant notamment à l'époque les Australiens et les Chiliens, qui étaient perçus comme des des immigrés criminogènes.
Et puis vous évoquez les naissances du Ku Klux Klan. En quoi ce mouvement, alors raciste évidemment, s'inscrit-il dans cette logique de vigilantisme, Mathis Gardenier ?
Alors les mouvements dont je vous ai parlé, c'était plutôt du vigilantisme de crime control, c'est-à-dire du vigilantisme de contrôle de criminalité qui ciblait des personnes individuelles. Mais le phénomène, il ne s'arrête pas à ça, il peut aussi être ce qu'on appelle du social group control vigilantisme, du vigilantisme de contrôle de groupe social. Et là, il va s'attaquer en fait à, non pas à des individus, mais à des minorités dans leur ensemble qui sont perçues comme criminogènes et qui sont assimilées à la criminalité, à une problématique sociale et qu'il faudrait discipliner, violenter pour qu'elles restent dans le droit chemin. Et aux États-Unis, après 1864, défaite des confédérés du Sud, l'esclavagisme est aboli. Et dans le sud des États-Unis, les élites locales, les élites esclavagistes, les grands propriétaires terriens ne peuvent plus discipliner, faire ce qu'ils veulent aux populations noires qui d'autant plus ont acquis le droit de vote. C'est-à-dire que c'est une population qui est importante, qui est quasi majoritaire dans certains États, qui peut voter. Et là, comme il n'y a plus cette violence d'États, on va dire des États confédérés, des États du Sud, il y a la mise en place de sociétés secrètes dont le Ku Klux Klan va être la plus importante, dont l'objectif est de terroriser les personnes noires. Les terroriser, donc avec un peu tout le répertoire qu'on connaît, hein, les croix de feu, les lynchages, les violences, etc. Mais l'objectif de ça, c'est de réinstaurer, de remettre en place un ordre social raciste, que ça se fait après par des lois votées localement, qui sont les lois Jim Crow, et qui vont mener à la mise en place de la ségrégation, et plus ou moins écarter les personnes noires du droit de vote aussi.
Alors vous mentionnez, alors si on reste dans ce cadre nord-américain, vous mentionnez aussi alors, des cas de figure qui n'ont aucun rapport, mais qui relève tout de même de cette logique du vigilantisme, si je vous ai bien lu, Mathis Gardenier. Par exemple, plus près de nous, dans le temps, les milices de surveillance locale au Mexique contre le narcotrafic. Donc on est bien face à un État défaillant, un État plus que défaillant, un État corrompu, et on est face à une même logique, c'est assez difficile à comprendre, puisque là c'est plutôt pour protéger la population.
Oui, ça c'est au Mexique, c'est les polices communautaires, c'est-à-dire que les polices locales et les polices fédérales et la police fédérale est perçue comme étant perçue à tort ou à raison, bien souvent à raison comme étant très proche des cartels, des narcotrafiquants. Et là, c'est un phénomène qui voit des habitants, souvent des communautés où il y a pas mal d'indigènes, s'organiser, créer leur propre police communautaire parallèle. Et régler différents conflits, offenses, violences, etc. Souvent en mettant en œuvre des sanctions alternatives aussi, le travail forcé, destruction de maisons, etc., qui ne sont pas forcément mettre les personnes en prison, et qui parfois vont s'opposer, vont même parvenir à chasser les cartels. Par contre, aussi problématique de ce type de police communautaire, c'est que, comme ce qui pose la question du contrôle aussi des forces de sécurité, certaines se transforment en cartel. Par exemple, le cartel de Michoacán vient de ces polices communautaires. Il y a un documentaire qui est sorti au milieu des années 2000 qui s'appelait Cartel Land, qui montrait comment une de ces polices communautaires parvient à chasser les cartels pour ensuite se transformer en trafiquant de méthamphétamine. Donc c'est un phénomène qui...
Bon, vous pointez des risques de dérive. Alors effectivement, voilà, le parallèle n'est pas toujours très évident entre des logiques citoyennes et puis effectivement ce que vous décrivez comme un passage à l'action violente. Mais en tout cas, il y a ces logiques et cette complexité. Alors, ce que vous évoquez, c'est le cas d'États qui sont défaillants. Et on comprend bien que dans le contexte européen, cette logique du vigilantisme arrive, s'acclimate, mais dans un contexte radicalement différent, parce qu'il n'y a pas de crise de l'État, notamment en matière sécuritaire, par exemple en France, ni au Royaume-Uni. Mais néanmoins, dès les années 30, vous mentionnez la montée alors en Italie du squadrisme, du fascisme avec le squadrisme, qui s'appuie sur le squadrisme. En France aussi, ces logiques de vigilantisme s'implantent, mais peut-être avec plus de difficultés.
Alors moi je citerai un auteur qui s'appelle James Walsh, et lui qui parle du phénomène des watchful citizens, c'est-à-dire que pour lui, on est dans une période où la sécuritisation, le fait de tout traiter de manière sécuritaire explose, et où il y a une reconfiguration du champ de la sécurité, c'est-à-dire qu'avant la sécurité c'était un domaine régalien, qui était du champ de l'État, et lui il dit qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont parallèles, qui vont montrer l'extension du champ de la sécurité. Donc il y a ce qu'il appelle le phénomène de transformer les travailleurs sociaux, les banquiers, etc., par exemple, en agents de services de renseignement qui vont coproduire la sécurité avec l'État. Donc ça va être de prendre des travailleurs et de les transformer en référents, de leur faire un travail policier qu'ils ne faisaient pas précédemment. Il y a aussi le fait d'enrôler la population dans des programmes de surveillance de masse. Donc ça peut être, par exemple, les voisins vigilants, ça peut être... il parle aussi au Mexique du Neighbor Watch Patrol. Là, c'est plein de caméras qui étaient à la frontière mexicaine, où le public pouvait regarder les caméras en direct sur Internet et ensuite dénoncer des potentiels passages de la frontière. Et après, il dit que la forme la plus radicale de cette extension, il y a aussi les polices privées, les boîtes de sécurité privées qui aussi vont avoir des attributions de police qu'elles n'avaient pas forcément précédemment. Et la forme la plus radicale, selon James Walsh, ça va être le fait que on passe à des groupes vigilants, qui sont des groupes non rémunérés, des groupes de vigilantisme, qui vont faire une action incontrôlée de police ou de justice de leur côté.
Alors justement, je vous propose d'écouter un de ces exemples français de groupes vigilants avec cet archivina de 2004.
C'est facile, hein. Le véhicule, il ralentisse et il regarde toutes les villas. C'est déjà un véhicule suspect. Même aussi des personnes qui sont à pied, qui se promènent avec un bouquet de fleurs.
Donc là, vous prenez votre téléphone.
Et on prévient la chaîne. Et on lance la chaîne.
Le principe de la chaîne est simple. Nicole prévient un voisin qui en prévient un autre, puis un autre. Aujourd'hui, la chaîne de vigilance de Bar-sur-Loup rassemble une trentaine d'habitants prêts à ouvrir l'œil et à passer le relais, si besoin, à la gendarmerie.
Il ne s'agit pas du tout d'une milice. Hein. Les gens ne font pas d'intervention. Ils ne font que, en fait, nous communiquer des résultats. Et en fait, ils sont très encadrés également par la gendarmerie. Pour nous, il s'agit d'un soutien.
Voilà, les voisins vigilants dans un reportage de France 3 dans les Alpes-Maritimes. C'était dans la commune du Bar-sur-Loup. Mathéis Gardenier, cette archive a plus de 20 ans. On comprend que ce vigilantisme à la française concerne donc ici une zone plutôt tranquille, plutôt résidentielle, plutôt aisée, mais difficile à surveiller pour la gendarmerie. Est-ce que c'est significatif de la façon dont ce phénomène se met en place dans notre pays ?
Alors, oui et non, parce que, en fait, si on reprend la définition du vigilantisme le vigilantisme dans sa définition canonique, elle va demander qu'il y ait à la fois une surveillance de l'intervention et potentiellement l'administration de sanctions. Et les voisins vigilants, quand même il y a le terme vigilant dedans, ils sont pas vraiment dans le vigilantisme, ils sont plutôt dans la surveillance de masse citoyenne, parce que les voisins vigilants, je dirais dans 99,9% des cas, ils vont pas intervenir, ils vont pas interpeller des personnes, ils vont juste s'organiser pour surveiller leur quartier. Donc ça va avoir des effets sociaux, le fait d'avoir une organisation sociale de la surveillance, mais on est pas exactement dans le vigilantisme, où là, c'est les gens qui s'autonomisent, qui agissent, qui interpellent. On est plutôt, je dirais, dans un phénomène cousin, ou qui est un peu les prémices, justement, du vigilantisme.
Alors, c'est un phénomène cousin, mais vous évoquez quand même dans votre livre deux cadres. Alors, un cadre un peu en lien avec les forces de l'ordre, comme ce qu'on vient d'entendre à l'instant dans cette archive, et puis un cadre plus, effectivement, sur le modèle de la réunion de quartier, qui, là, se passe complètement de lien avec les forces de l'ordre. Ça pose quand même des problèmes.
Ça pose des questions, et d'ailleurs, peut-être qu'un exemple des questions que cela pose, c'est ce qui s'est passé en 2024 en Nouvelle-Calédonie, quand il y a eu l'insurrection en juin 2024, où il y a eu les voisins vigilants se sont organisés par quartier pour se protéger contre les émeutiers. Et dans donc là, c'était des quartiers qui étaient barrés avec des barricades, des personnes masquées, armées, etc. Et ce qui en ressort, la documentation qui en ressort, c'est qu'il y avait certains groupes qui étaient, on va dire, des personnes qui avaient peur, qui voulaient juste se protéger, des métiers, etc. Mais qu'il y avait aussi des groupes armés qui avaient un agenda politique, on va dire, assez anti Kanak, je dirais, qui ont pour le coup ont tué des émeutiers.
C'est extrêmement important de rappeler cet exemple néo-calédonien, Mathéis Gardenier, parce que là on est dans un cadre typique de défaillance de l'État et qui fait que certaines réalités françaises, notamment dans les Outre-mer, peuvent rejoindre des réalités comme celle de l'Amérique latine ou d'autres.
Oui, effectivement, de défaillance de l'État, mais aussi je pense qu'il y a un monde où l'État se pose la question, dans le cadre, on va dire, d'émeutes, d'événements, de soulèvements de masse, à enrôler aussi des citoyens, qui est des citoyens qui participent au maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, je crois que le haut commissaire, hein, c'était pas le préfet, qui avait eu un regard ambivalent vis-à-vis de ces groupes à ce moment-là.
Si on reste dans l'hexagone, Mathéis Gardenier, qui sont les vigilants en France ? Est-ce que ce sont des retraités, comme dans cet archive que nous entendions il y a quelques minutes ? Vous évoquez dans votre ouvrage le cas de classes populaires établies à Montpellier et à Hénin-Beaumont, plutôt des cadres. Donc on comprend qu'il y a des profils un petit peu différents, pour des surveillances peut-être de types différents.
Alors effectivement, pour les voisins vigilants, donc ces collectifs de surveillance de quartier, les voisins vigilants, ce que j'avais constaté, c'est que dans beaucoup de communautés, c'est des hommes, quasi exclusivement des hommes, retraités, et qui sont des anciens cadres, des anciens chefs d'entreprise, des cadres d'industrie pharmaceutique. Et ce que j'avais aussi constaté, c'est que dans ces quartiers-là, les voisins vigilants, ils n'avaient pas un ressenti immédiat d'insécurité. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'acte de délinquance qui avait eu lieu l'an dernier, il y a 2 ans, qui voulait prévenir. C'était plutôt la potentialité qui en est. Et là, le deuxième type de communauté de voisins vigilants que j'avais vu, c'était au contraire, on va dire, plutôt des communautés de voisins vigilants qui appartiennent aux fractions établies des classes populaires, petite classe moyenne, classe moyenne inférieure, à proximité de quartiers populaires, et où pour le coup, il y a des actes de délinquance que, quand on leur demande, ils disent, bah oui, là, il y a eu tel acte de délinquance. Et le profil n'est pas le même. C'est-à-dire que les gens qui s'organisent dans ces communautés-là, c'est plutôt des actifs. Il y a plus de femmes aussi. Et il y a des actions de patrouille, de surveillance d'entrée du lieu. C'est-à-dire qu'on sait pas exactement le même phénomène social dans l'appellation des voisins vigilants.
Alors, vous en avez déjà dit quelques mots, mais revenons peut-être sur cette idée, si vous voulez bien. En quoi l'apparition et le développement et la diffusion de ce phénomène du vigilantisme en France est-elle, accompagne-t-elle peut-être une inflation de lois, de normes relatives à la sécurité en France? Est-ce qu'on demande aux citoyens, et par quel dispositif, de s'associer à la production d'une sécurité?
Alors, il y a une théorie, il y a une école qui s'appelle l'école de Copenhague qui parle de la sécuritisation. C'est-à-dire qu'ils disent qu'à partir des années 70, il y a un phénomène social qui voit toute une série de problématiques sociales être non plus traitées comme des problématiques sanitaires, comme des problématiques de précarité, de pauvreté, mais uniquement sous le prisme sécuritaire. Et là encore, revenir aux États-Unis, c'est un bon moyen de comprendre ce phénomène. Je ne sais pas si vous avez vu le film Joker. Dans le film Le Joker, justement, le héros qui est joué par Joaquin Phoenix, ou l'anti-héros, à un moment, il est suivi par un programme social, il a un emploi, etc. Et à un moment, à la fin des années 70, on coupe ses financements, et du coup, il bascule dans la criminalité. Et ça, c'est une métaphore qui est posé par le réalisateur du Joker, mais c'est aussi quelque chose qui est réellement passé. C'est-à-dire que à la fin des années 70, il y a eu ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire qu'on a considéré pour diverses raisons que les hôpitaux psychiatriques étaient problématiques et qu'il fallait arrêter d'institutionnaliser les personnes, et on a mis dehors des centaines de milliers de personnes. Donc, sauf que ces personnes, pour beaucoup, n'avaient pas de famille où aller, n'avaient pas forcément d'hébergement. Ces personnes se sont retrouvées dans la rue, se sont retrouvées SDF. Pour certaines, se sont retrouvées dans des pratiques addictives. Pour certaines, ont commis des délits. Et très rapidement, beaucoup de ces personnes se sont retrouvées en prison. Et dans la prison, à l'époque, aux États-Unis, on a un peu moins de 3 millions de personnes qui sont incarcérées. On est passé à une incarcération de masse, de diverses personnes de minorité, mais globalement de personnes pauvres qui commettaient des délits. Et dans le cas de la psychiatrie, on s'est retrouvé avec une population qui précédemment était prise en charge par une institution sanitaire, après avec des critiques à adresser à la psychiatrie américaine des 110, etc., qui se retrouve à coûter à peu près la même chose en termes financiers, mais qui est prise en charge par l'institution pénale. C'est-à-dire qu'on a un glissement en fait de problématiques sociales vers le champ de la sécurité.
Pardon de vous interrompre, Mathis Gardenet, il faut avancer malheureusement dans cette émission, on est en manque de temps. Et je vous propose de quitter la France pour le Royaume-Uni.
All right, guys, just in Chelmsley Wood.
Bon les gars, on est à Chelmsley Wood. On est venu avec des drapeaux parce que des habitants nous ont demandé de venir ici. On a eu des infos de la part des locaux. Et en gros, ils sont en train de transformer cet endroit, en plein centre-ville, en hôtel pour migrants. Ici, c'était un ancien siège de la Légion royale britannique, vous imaginez? Et c'est le contribuable qui paie pour ça. Alors on est venu ici pour hisser quelques drapeaux, quoi.
S'il le faut, nous viendrons en France, nous irons à Paris, à Lyon, en Belgique, peu importe. Nous voulons mettre fin à cette invasion illégale de migrants qui entrent dans notre pays, nous pillent et violent nos femmes et nos enfants. Nous voulons mettre fin à tout ça, c'est tout.
Voilà un exemple de deux opérations menées au Royaume-Uni par le mouvement Raise the Colors, hisser les drapeaux, donc des patrouilles anti-migrants. Mathéis Gardenier, comment ce vigilantisme, notamment au Royaume-Uni, mais aussi en France, en fait, de part et d'autre de cette frontière, entre Douvres et Calais, comment ce néo-vigilantisme se configure-t-il pour donner la réalité que vous avez pu constater dans votre enquête?
Alors, première chose, c'est je dirais que ce vigilantisme, il n'émerge pas face à une absence de l'État britannique et de l'État français. C'est-à-dire, vous allez à Calais, vous allez à Douvres, ces endroits qui sont extrêmement patrouillés, sécurisés, il y a dispositifs de sécurité, des murs, du fil de fer barbelé, des caméras. Ce sont une des zones les plus sécurisées au monde. C'est-à-dire que ces groupes anti-migrants, ils n'agissent pas face, on va dire, à une faillite de l'État. Il se pose plutôt dans ce que j'appellerais, en reprenant les termes de l'historien Thomas Schmidt-Lux, un vigilantisme qui se veut better than, c'est pas instead of the state, c'est pas à la place de l'État défaillant, il se veut better than the state. Il dit l'État ne fait pas assez bien les choses, on veut faire mieux. Et eux, on va dire, enfin, en réalité, c'est pas vraiment des pratiques de sécurisation au quotidien des frontières, mais c'est des tentative de camper les flux de population entre la France et la Grande-Bretagne, donc qui sont des flux de demandeurs d'asile, de camper ces personnes comme relevant non pas d'une problématique de vulnérabilité humanitaire, de protection des personnes, mais comme une problématique sécuritaire.
Alors, cette question, on est obligé de vous la poser. Le vigilantisme, dans ce cas précis, des patrouilles anti-migrants, est-il d'extrême droite?
Alors, je pense que pas tous les phénomènes de vigilantisme sont liés à l'extrême droite, mais je dirais qu'il y a, pour reprendre les termes de Max Weber, ce qu'il y a ce qu'on appelle une affinité élective, c'est-à-dire que les mouvements sociaux d'extrême droite se retrouvent bien dans le répertoire d'action du vigilantisme, et la plupart des groupes vigilants sur la question des migrations, quand bien même souvent se prétendent comme des citoyens concernés, des citoyens apolitiques, ont un ancrage, en tout cas pour les militants qui sont au cœur de ces groupes, au long cours de l'extrême droite, dans différents courants de l'extrême droite française et britannique.
Alors, une notion qui est au cœur de votre ouvrage, Mathéis Gardenier, c'est la notion de demande sociale de sécurité. Alors ça, c'est assez ambigu, parce que c'est une demande qui est très démocratique, qui part de la base et qui peut aboutir, comme on l'a entendu dans le cas du Mexique, à des choses plutôt favorables à l'épanouissement de la vie citoyenne. Et puis ça peut donner effectivement ces patrouilles anti-migrants. Alors cette demande sociale, elle est extraordinairement ambiguë. Comment on travaille sur cette notion quand on est un chercheur comme vous l'êtes?
Alors la demande sociale de sécurité, en fait, elle part du constat que, si on regarde, c'est difficile de mesurer les taux de criminalité et de délinquance, mais pour la plupart des criminologues, l'indicateur le plus fiable, c'est le taux d'homicide. Et le taux d'homicide en France, dans la plupart des pays européens, est en chute depuis les années 80. Par contre, le sentiment d'insécurité, il n'est pas du tout en chute. Il est l'idée qu'il y a une menace, qu'il y a une peur, un danger, il est très important. Et il y a certains sociologues, notamment Mukeli, qui dit qu'il y a en fait que le taux de violence baisse vite, mais que le taux de violence a tendance à baisser, mais que la tolérance à la violence baisse encore plus vite. Et ça va créer, on va dire, un delta, une différence, qui est une demande sociale de sécurité. Robert Castel, qui était aussi un sociologue majeur, lui disait qu'il met ça en lien avec l'insécurité sociale, c'est-à-dire que pour lui, l'insécurité, c'est pas quelque chose qui relève uniquement de la criminalité, de la délinquance, mais il dit qu'à partir des années 70, avec la fin de la société salariale, des garanties de société salariale, on se retrouve dans une situation où on est en insécurité sur la plupart des champs de la vie. Par rapport au coût de la vie chère.
Donc cette notion d'insécurité, c'est les vases communicants. C'est-à-dire qu'une insécurité matérielle a tendance à générer d'autres types d'insécurité.
Voilà. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va y avoir une insécurité sociale par rapport à l'accès à l'État-providence, aux soins, au travail, la précarisation du travail, la précarisation de le fait d'arriver à finir les fins de mois. Et il dit que dans notre société, dans notre configuration, on a le sentiment qu'il est impossible d'agir sur cela, parce que Mark Fisher appelle le réalisme capitaliste, c'est-à-dire on peut pas revaloriser le système de sécurité sociale, la précarité de l'emploi, c'est quelque chose qui, au final, il n'est pas possible d'agir là-dessus. Et selon lui, il va y avoir un report, en fait, le seul aspect sur lequel il y a un sentiment qu'on puisse agir, c'est l'insécurité liée à la délinquance, et qui du coup va avoir une demande sociale de sécurité d'autant plus poussée que c'est le seul secteur où on pense qu'il est possible qu'il y ait une action. Et Castel, il finit en disant qu'une demande totale de sécurité sera perpétuellement déçu dans le cadre d'un État qui d'un État de droit qui garantit des libertés publiques, qui restreigne l'action de l'État.
Alors ça sera ma toute dernière question, et si vous pouvez répondre en quelques mots vraiment, s'il vous plaît, Mathis Gardenier. On sent que c'est un champ de recherche qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose de très interrogatif dans votre ouvrage et dans votre démarche. C'est un champ de questionnement pour vous, ce vigilantisme.
Ah oui, complètement. Et je pense que aussi la vraie question aussi autour du vigilantisme, c'est la question de la comptabilité. C'est-à-dire que les vigilants, ils vont se prétendre comme répondant, on va dire, des questions, des problématiques de sécurité. Mais derrière, s'ils sont autoproclamés, à qui rendent-ils des comptes? Et notamment, si on parle des anti-migrants britanniques, une organisation de recherche qui s'appelle Hope Not Hate a montré que beaucoup de ces personnes qui prétendent sécuriser les frontières ont des casiers judiciaires très lourds, que ce soit pour des crimes de haine, des violences racistes, oui. Mais on a aussi des braqueurs de banque, on a même un ancien passeur qui s'est reconverti en vigilant, donc qui a été condamné pour trafic humain. Voilà, donc c'est la question de la comptabilité de ces groupes qui est très importante.
Merci beaucoup Mathis Gardenier. Je rappelle que vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Montpellier Paul Valéry, auteur d'un ouvrage formidable paru aux éditions Libère, Vigilantisme et idéologie de la sécurité, des voisins vigilants aux groupes anti-migrants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Questions d'Histoire. Merci aussi à toute l'équipe de Questions d'Histoire. Cette émission a été préparée par Rodi Ekene et Bruno Barada. Elle a été réalisée par Margot Page, à la technique Grégory Wallon.